Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Et au sommaire aujourd'hui, donc le Mali et la boucle du Niger.
C'est ça, et la violence toujours au centre du Mali. Après la mort mardi d'un médecin militaire français dans l'explosion de son véhicule, l'armée française venait de s'y installer pour tenter d'endiguer l'instabilité croissante dans la région et garder peut-être un œil sur les pays alentours, Tchad et Burkina. Alors le centre bourbier ou levier sur la sécurité régionale, on en parle avec vous, Nicolas Desgrais, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone. Vous êtes doctorant à la Brussels School of International Studies, University of Kent. Vous êtes spécialiste du Sahel. Alors, il y a beaucoup d'interrogations en ce moment à l'ONU sur les dispositifs militaires en place. Ce qu'on voit, c'est qu'en début de semaine, l'armée française s'installe dans cette région de la boucle du Niger, du Gourma, centre-sud du Mali, celle où est intervenu le massacre de 157 peuls le 23 mars. Le fait qu'elle s'y installe en ce moment, elle y opérait depuis quelques mois, c'est complètement inédit quand même.
Oui, alors ça s'inscrit dans le cadre d'un redéploiement du dispositif Barkhane au Mali. Au cours des derniers mois, la force française a agi surtout sur l'axe entre Gao, Onsongo et ensuite Menaka, donc plutôt à la frontière avec le Niger, et on voit un redéploiement après avoir affaibli justement l'État islamique au Grand Sahara d'Abou Walid al-Sahraoui, un redéplacement justement vers cette zone du Gourma où il y a encore des katibas qui sont actifs dans la zone.
Et alors justement, pour y faire quoi dans ce sanctuaire djihadiste, hein, comme le disait le général Blachon qui commande la force sur place, il y a l'autre général commandant en chef des forces armées françaises, Lecointre, qui parlait d'une stratégie un peu gagnante dans le Liptako, la région plus à l'est, qu'il s'agirait de répliquer ici dans le Gourma. Il disait à Menaka, dans l'est, il y a un véritable retour des habitants, la réinstallation de l'État, le retour des forces maliennes. C'est ce qui est visé par l'armée française en ce moment là.
Oui, effectivement, l'armée française, son objectif premier n'est pas d'éradiquer toute menace que posent les groupes armés djihadistes, mais bien de permettre un affaiblissement de ces groupes pour que les armées nationales puissent être en mesure de gérer eux-mêmes cette situation. Donc ils ont estimé qu'effectivement, après 18 mois de présence du côté de Menaka, les forces en présence étaient capables de gérer cette menace. Et effectivement, c'est vrai qu'on a vu un affaiblissement de l'EJS avec Abou Walid al-Sahraoui qui aurait été...
Donc l'État islamique au Grand Sahara, EJS.
Exactement. Ouais. Qui aurait été blessé et qui aurait été forcé de quitter la zone. On a aussi pas mal de membres de ce leadership, notamment arabes, qui se sont rendus à Taman Rasset pour déposer les armes dans le cadre de la charte de réconciliation nationale qui est en vigueur en Algérie. Donc on a eu un certain affaiblissement du groupe. Après, le groupe est toujours actif d'une certaine manière, notamment suite à l'attaque d'Aqaba contre les forces françaises début mars, où on a bien vu qu'ils étaient capables encore de mener des actions complexes avec des véhicules piégés et puis des attaques directes. Donc l'EJS existe toujours et l'idée est quand même d'avoir, après observer une certaine affaiblissement, de se redéployer dans d'autres zones.
Oui, alors je ne sais pas si l'attaque a été revendiquée, celle à l'explosif improvisé contre le véhicule du capitaine français ce mardi, mais c'est vrai qu'il y a une diversité des groupes dans cette région et puis un certain nombre de violences qu'on dit intercommunautaires. Est-ce que ça vient pas tout compliqué et le travail de l'armée française aussi dans la région?
Effectivement, ces violences intercommunautaires qui sont pas nouvelles, hein. Le massacre de Gossagou a vraiment marqué l'opinion au fer rouge et à juste titre parce que les images sont absolument terribles. Mais il faut se rappeler aussi du massacre de Yergou qui a eu lieu au Burkina le 1er janvier où on a eu entre 50 et 70 morts. Où là aussi, suite à l'assassinat d'un chef de village par des groupes armés non identifiés, on a eu une vague de représailles et de vengeance d'une milice qu'on appelle les Kogogo vis-à-vis de la communauté Peul, et on se rend compte que cette communauté Peul se retrouve au milieu d'amalgames de plus en plus meurtriers entre le Mali et le Burkina, et c'est vrai que ça complique beaucoup l'action des forces armées, que ce soit celle de la MINUSMA ou Barkhane, mais également des armées nationales qui sont bien souvent incapables d'arrêter ces vagues de représailles qui peuvent exister dans certaines régions.
Oui, avec d'ailleurs encore un massacre, nous dit l'AFP, entre dimanche et mardi dans la région du Nord Burkina, là, à Arbinda.
Exactement. Ben,
c'est ça, voilà. Voilà.
Entre 62 morts et 9 otages, apparemment.
Exactement. Entre et une trentaine de la part de djihadistes, une trentaine pour les violences intercommunautaires. Là-dessus, juste un mot encore sur l'action militaire de la France au Mali. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Il était question de la part du service de presse du ministère de la Défense d'une opération qui sert à limiter les mouvements principalement des djihadistes, des opérations de ratissage pour trouver les armes. C'est un peu ça l'idée en fait, c'est endiguer la menace finalement.
Oui, l'idée de l'ouverture de cette emprise à Gossi, c'est aussi de pouvoir permettre des actions davantage dans la durée dans cette zone, c'est-à-dire de ne pas venir uniquement de façon très ponctuelle suite à du renseignement, de la présence d'un leader djihadiste ou d'un groupe constitué, mais de pouvoir rayonner, de faire de la présence et ainsi déstabiliser justement les flux logistiques des groupes djihadistes, parfois même entre eux, donc de saper un petit peu leur capacité à déplacer des armes, à déplacer aussi les capacités d'IED, etc.
Oui.
Donc voilà, oui, c'est vraiment d'essayer de couper, entre guillemets, les flux logistiques.
Bon, et pour ce qui est de la stratégie de levier sur la région, ça c'était le général Blachon qui en parlait, qui disait à l'AFP, on est ici dans la poignée de l'éventail, donc qui permet de surveiller notamment le Burkina. Le Burkina lui-même très touché en ce moment, on en parle moins, mais c'est vrai qu'il y a un bilan qui est énorme depuis quelques temps. 300 morts, je crois, depuis 2015, 140 000 déplacés internes, et puis un nombre croissant de tués, là, vous l'avez souligné quand même, dans le Nord.
Oui, oui, le Burkina fait face vraiment à une menace inédite dans son histoire. Hein. On se rend compte bien qu'il y a des parties entières du territoire où les forces de défense et de sécurité sont à la peine, où l'autorité d'État recule avec le recul d'une part des autorités locales, mais aussi des enseignants, enfin des services de l'État. Donc c'est vraiment un problème nouveau auquel le Burkina essaie de faire face. Dans ce cadre, justement, la coopération avec la France tant évolué au cours des derniers mois. On a vu la signature d'un accord intergouvernemental qui va permettre justement une coopération militaire plus poussée. Barkhane est aussi en train d'ouvrir une emprise du côté du nord du Burkina. Donc l'idée est d'essayer d'avoir des emprises, un maillage territorial de Barkhane pour potentiellement pouvoir agir plus rapidement avec plus de flexibilité. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Et voilà, tout laisse à penser une augmentation justement des opérations de Barkhane au Burkina.
Et le Burkina qui participe aussi à ce G5 Sahel, hein, force des multinationales de 5 pays lancée en 2017, enfin mise en place en 2017. Il y avait un chercheur du Timbuktu Institute de Dakar qui disait que le Burkina là se présentait un peu comme le dernier verrou avant que les djihadistes n'atteignent l'Afrique côtière. C'est comme ça qu'il interprenait l'intensification des actions dans le Nord. Est-ce que vous seriez d'accord? C'est vrai qu'il y a eu quelques attaques entre le Bénin, le Togo également.
Oui, c'est vrai qu'on se rend compte que justement les groupes armés djihadistes ont une stratégie, hein, et s'adaptent justement aux mécanismes que mettent en place leurs ennemis, à savoir les États sahéliens et les forces françaises et internationales. Donc ils ont tendance à essayer d'ouvrir de nouveaux fronts pour justement pousser leurs adversaires à disperser leurs efforts et ne pas être en mesure de les concentrer à un endroit où ils seraient. Donc je pense que cette ouverture d'un nouveau front, notamment dans l'est du Burkina, voire avec les frontières des pays côtiers, ça s'inscrit complètement dans cette stratégie qui est de déstabiliser les mécanismes que ces États du G5 tentent à mettre en place. Effectivement, on est obligé maintenant, pour les États sahéliens, d'avoir des coopérations qui dépassent le cadre du G5, notamment dans le cadre du Conseil de l'Entente, où ils ont créé une entente de renseignement, c'est-à-dire du partage d'informations, avec les pays côtiers pour pouvoir essayer de limiter cette menace.
Oui. Et alors, avec quelles implications, dernière question, pour le G5 Sahel, là, il y a eu justement une visite du Conseil de sécurité de l'ONU qui a, je crois, décidé de autoriser la MINUSMA, la force de l'ONU de la paix, donc à appuyer logistiquement ce G5 Sahel, toujours un peu faible en moyens et en financement.
Alors c'est vrai que le soutien de la MINUSMA était assez limité dans la mesure où la MINUSMA peut exercer uniquement sur le territoire malien. Donc elle s'occupait de faire de la livraison d'eau, de vivres et puis aussi de la construction de camps, mais uniquement sur le territoire malien, ce qui pouvait être utilisé que pour les bataillons maliens de cette force conjointe. Donc on tend vers un soutien onusien un peu plus large qui pourrait justement permettre de soutenir davantage le Burkina. Maintenant, c'est vrai que cette force conjointe, il faut la prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire que c'est une tentative de rapprocher les armées saliennes de leurs frontières pour justement éviter de laisser des espaces vides. Mais voilà, il faut être très réaliste sur cette force. Cette force est constituée que de 5000 hommes sur 3 fuseaux et c'est très difficile pour elle d'être la solution à toute la solution sécuritaire du Sahel.
Eh ben, ce sera à suivre ainsi que l'avenir de la MINUSMA en juin au Conseil de sécurité. Merci beaucoup ce matin pour vos explications, Nicolas Desgrès, je le rappelle.
Merci à vous.
Merci, doctorant à la Brussels School of International Studies de l'University of Kent. Merci.